Donc ce soir, nous allons clôturer l'étude, notre étude de 1 Corinthiens avec le dernier chapitre 16. Alors nous allons prendre donc le temps d'étudier ensemble le dernier chapitre. En étudiant le chapitre 15, nous avons vu que si nous croyons qu'il y a une vie après la mort, si nous avons cette conviction, si notre foi va dans cette direction que il y a une vie après la mort, qu'il y a la résurrection des morts, ben, ça va affecter notre vie actuelle. Notre comportement actuel va s'ajuster parce que nous savons qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Amen. C'est ce que nous avons vu. Donc, nous voyons ici, en conclusion donc, de ce premier épître de Paul aux Corinthiens, alors que la fois passée, nous parlions des aspects, je vais dire, doctrinaux sur la résurrection des morts, nous voyons que tout d'un coup, Paul passe encore à des aspects pratiques de la vie, pour dire justement que ça s'enchaîne. La doctrine est là pour nous donner des guides, les grandes lignes, ce sur quoi nous devons nous baser dans notre foi chrétienne, mais il faut que ces choses soient vécues. Donc ici, il vient dans des cas pratiques, il passe donc des aspects doctrinaux à des aspects pratiques. Et je vais lire l'entièreté du chapitre et puis je vais y revenir. Par bout de verset, il n'est pas très long comme l'autre. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est un verset que nous lisons beaucoup, mais vous allez vous dire dans quel contexte ça se situe. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, ben elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec des frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a plusieurs sujets. Dans le fond, vous voyez que c'est comme un mélange, je crois qu'il profite de la dernière chapitre avant d'envoyer sa lettre pour passer tout ce qu'il a comme message à passer dans la tête. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Les quatre premiers versets, nous allons le voir, ça parle de la collecte en faveur des démunis de la Judée, de Jérusalem. Les versets 5 à 9, ça nous parle de ses plans de voyage. Il explique un peu. Il y a eu des changements sans doute dans des plans de voyage. Il leur dit pourquoi et comment ça va se passer, et surtout en rapport avec la prochaine visite qu'il va effectuer à Corinthe. Le verset 10 à 12 nous parle, il donne des nouvelles des frères. Il y a tout le temps des frères qui viennent le visiter, qui vont le voir, qu'il a envoyé ici et là. Il donne des nouvelles des frères aux différentes églises. Et en fait, le verset 13 à 18, il fait des exhortations comme finales et il donne certaines directives donc, en rapport avec trois de ses ouvriers. Le dernier verset, c'est tout simplement des salutations. Alors, verset 1 à 4, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc là, il commande un peu que l'on fasse une collecte en faveur des saints, des membres des églises de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'était un centre qui accueillait beaucoup de gens, surtout particulièrement après la Pentecôte. Tous les gens qui venaient, et l'église est née à ce moment-là. Donc il y a des gens qui venaient prier à Jérusalem, se sont trouvés pris dans ce mouvement, ils sont restés ensemble, ils ont commencé à vivre ensemble. Les gens ont mis tous leurs biens ensemble, en commun. Qui pensez-vous qui a mis les biens en commun? La plupart de ceux qui ont donné de leurs biens, c'est des gens que l'on a trouvés à Jérusalem. Parce que les autres venaient pour un temps, ils ne sont pas venus avec toute leur richesse, ils venaient pour un temps et ils sont restés. Mais la plupart des gens qui venaient aussi, c'était des familles démunies qui venaient de la Judée. Alors, il y avait ce principe de la communauté des biens. Il n'y a plus personne qui avait quelque chose pour lui. Et donc, il y a des gens qui se sont, je dirais pas appauvris, mais qui se sont vidés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait vraiment pas de retenue. Ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens pour qu'ils mettent tout en commun. Ça se peut qu'il y ait eu peut-être une mauvaise gestion quelque part. Ça se peut qu'il y ait eu gaspillage. Ça se peut qu'il y ait eu un manque de sagesse. On ne le dit pas clairement, mais le résultat, c'est que les gens de Jérusalem se sont finalement ont été quasiment dépouillés. Mais il n'y a pas que ça qui a fait qu'ils soient en difficulté. Il y a eu aussi une famine. Ils ont connu une famine. Le livre des Actes des Apôtres en parle au chapitre 11, acte 11, le verset 27. En ces temps-là, vous voyez bien que ça se passe donc quasiment au début de l'Église. En ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, non seulement qu'il y avait beaucoup de familles démunies qui sont restées dans l'église, qui ont été prises en charge par des gens, mais il y a aussi une famine. Donc, la situation était compliquée par cette famine. Donc, les frères de Jérusalem avaient été une bénédiction à ce moment-là. Vous êtes d'accord avec moi? D'accueillir tous ces gens et de dire, ben, nous donnons nos biens pour que nous nous sentions bien. Ils se sentaient une famille, ils partageaient sans compter. Ils ont été une bénédiction pour toutes ces autres personnes qui venaient d'ailleurs. Non seulement pour ces personnes, mais ils ont aussi été une bénédiction pour les autres églises, les gens de Jérusalem. Maintenant qu'ils sont eux-mêmes démunis, maintenant qu'ils se trouvent dans une situation difficile, c'est donnant-donnant. Vous nous avez aidés à un moment donné, vous avez accueilli plein de gens, etc. Il est temps aussi que nous puissions venir à votre secours. Voici pourquoi il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises. Il donnait des ordres aux églises en disant, tel frère, telle sœur de telle église à tel endroit sont en difficulté, allez au secours les autres frères pour qu'ils ne manquent de rien. Donc, c'était leur obligation, eux aussi, de participer à cette collecte en faveur de Jérusalem. Ils avaient beaucoup donné Jérusalem, c'est le temps aussi que les autres qui avaient reçu de Jérusalem reçoivent ce qu'ils devaient avoir pour passer à travers cette situation. Et beaucoup d'églises, il n'y a pas juste que les gens de Galates, nous l'avons vu quand nous avons étudié Galates, les gens de Galates chapitre 6, ils ont participé à cette collecte, verset 9, ils disent « Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Donc, chaque fois qu'il y a une occasion d'aider une autre église, il le faisait sans problème. Dans 2 Corinthiens, on le voit aussi, on en parle dans 2 Corinthiens, quand il parle des églises de Macédoine, chapitre 8, le verset 1 à 5. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Même si eux-mêmes passaient par des temps difficiles, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier verset donc qui dit « Il faut que cette collecte se fasse parce que Jérusalem avait beaucoup donné, maintenant ils sont dans le besoin, il faut le faire. Je le demande à vous comme je l'ai demandé à toutes les autres églises. » À Macédoine, ils ont donné, les gens de Galatie aussi ont donné. Au verset 2, il dit que chacun donne, chacun de vous donne, met à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et il le fasse le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, à cette époque-là, c'était le dimanche. C'était le dimanche, même si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres 20, verset 7, on dit le premier jour de la semaine, etc. Ça nous annonce donc. Ça se passait le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Et ce qui se faisait à l'époque, c'est que les gens se réunissaient d'abord, ils allaient au culte, ils prenaient la Sainte Cène ensemble, et puis ensuite, ils allaient au travail. C'est comme ça que ça se passait, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça a changé quelques temps après, au IIIe siècle. Les chrétiens se réunissaient donc avant d'aller au travail. Et il dit ici, chaque dimanche, chaque fois que vous vous assemblez, mettez à part, mettez de côté ce que vous pouvez, chacun. Donc, aussi bien ceux qui sont riches que ceux qui sont démunis. Chacun a quelque chose à donner. Que chacun mette à part, même les esclaves, parce qu'il y avait des esclaves dans l'église de Corinthe, même les esclaves sont concernés. C'est pour ça qu'il dit que chacun de vous, il n'y a pas à dire, bon, nous allons regarder à ceux qui ont l'argent, eux, ils ont l'argent et n'ont qu'à donner. Il dit, chacun de vous donne le premier jour de la semaine, qu'il mette à part ce qu'il pourra, selon sa prospérité, selon la bénédiction qu'il a reçue, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, il faut mettre à part dans un trésor commun, mettre à part à la caisse de l'Église, de façon que quand Paul viendra, l'argent soit prêt. Donc il y a la notion de régularité qui joue là-dedans, chaque dimanche, le premier jour de la semaine. Il y a la notion aussi de donner en fonction de la bénédiction, la proportionnalité par rapport à ce qu'on gagne. Et c'est là-dessus qu'il y a des différences entre chrétiens. Il y a des chrétiens pour qui il y a des choses qui sont prioritaires parce qu'ils le font avec un cœur bien disposé, comme on disait dimanche dernier. Ils le font avec un cœur bien disposé. Ils ne sont pas en train de calculer leurs sous. Ils donnent parce qu'ils comprennent pourquoi ils donnent. Ils donnent parce qu'ils réalisent que ce n'est pas un fardeau. De toute façon, ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'en haut, je l'ai reçu de Dieu. C'est lui qui m'a donné la santé, le travail. Donc, je donne de gaieté de cœur. Ils font le faire et Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul dit de le faire sans attendre mon arrivée parce que les collègues que l'on fait, quand Paul est là, c'est-à-dire dans la précipitation, les gens peuvent dire, oui, mais nous ne sommes pas préparés à cela. Il dit, non, vous avez le temps, préparez-vous. Et puis, quand vous le faites vite, vite, vous n'allez peut-être pas donner. C'est-à-dire que si vous mettez peu à chaque occasion, le jour il vient, tout est prêt, il n'y a plus le temps de déranger les gens. Il dit, bah, il nous a surpris. Non. Vous le saviez longtemps à l'avance, donc c'est important. Sans attendre mon arrivée. Et c'est ça l'avantage de la régularité. Ça va peser moins sur la poche des gens. Ce sera aussi, en général, plus abondant. On a pris le temps de préparer ça. Je mets peu à peu, sans m'étouffer, mais progressivement. Mais à la fin, ça va être une bonne cagnotte qui va pouvoir être amenée aux frères. Et il dit que ce que vous allez donner au verset 3, quand je serai venu pour recueillir les dons, donc j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Paul, c'est un homme civilisé, c'est un homme organisé, c'est un homme qui fait bien les choses. Il sait déjà qu'il a mauvaise presse dans l'église de Corinthe. Il sait qu'on le critique beaucoup. Il dit non, l'église va approuver les personnes qui vont amener cet argent. L'église va approuver, mais moi, je mettrai aussi du mien parce que je ferai des lettres. Je ferai des lettres parce que je connais ces églises vers lesquelles vous apporterez. Donc, ils vont amener ça, c'est en sécurité, et ils vont être accompagnés avec des lettres. Donc, ils seront envoyés avec des lettres de Paul pour les recommander parce que Paul connaît ces églises. Il va les introduire, donc il va les recommander auprès des églises vers lesquelles ils vont aller parce que lui, c'est lui qui est connu. Par contre, il dit qu'au verset 4, il dit « Si la chose mérite que j'y aille moi-même, en temps normal, je n'ai pas besoin d'y aller. » Parce que c'est des personnes approuvées de l'Église. C'est des personnes qui ont un bon témoignage de l'Église, D'où l'importance d'avoir un bon témoignage, effectivement. Quand on gère les finances de l'Église, quand on s'occupe des tas de choses dans l'Église, l'importance d'avoir, pour que l'Église approuve, on dit oui, nous avons confiance. Ces personnes vont faire arriver cet argent à destination, nous avons confiance. Et c'est bien que pour la crédibilité de Paul, c'est bien qu'il ne soit, d'abord, lui n'est pas un agent porteur là pour commencer à amener l'argent dans toutes les églises. Lui, il a des missions plus élevées que ça. Hein, mais il dit, si c'était nécessaire, au verset 4, si cela, la chose mérite que j'y aille moi-même, peut-être en fonction de l'importance du montant, je ne sais pas, peut-être en fonction de l'importance du montant, il dit, elles feront, ces personnes feront le voyage avec moi. Donc c'est moi qui suis le chef de la délégation et ils vont m'accompagner avec cette cagnotte. Comme ça, au moins je me mets à l'abri de tous ceux qui me critiquent, qui peuvent dire, ben, Paul a pris une partie de l'argent qu'on avait donné. C'est ça. On le cherchait tellement qu'il devait faire attention à tout. Et moi, je considère que c'est la même chose. C'est mon principe dans l'Église, dans la mesure du possible, le moins possible, me mêler de l'argent. Le moins possible. Le moins possible. C'est ma sécurité et je suis bien comme ça. C'est vraiment ma sécurité et c'est bon pour l'Église également. C'est bon pour l'Église. Donc, si nécessaire, ils iront avec Paul. Il va être le principal, donc... délégué, le principal de la délégation. Ça, c'est les quatre premiers versets. Les versets 5 à 9. On va y aller. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, et car je traverserai la Macédoine. Donc, en réalité, Paul vient de changer le plan de voyage. S'il en parle, c'est bien qu'il vient de changer le plan de voyage qu'il avait. C'est-à-dire, initialement, il était, quand il écrit cette lettre, il est à Éphèse. Il est à l'église d'Éphèse. Il comptait passer d'Éphèse à Corinthe, directement pour visiter les gens de Corinthe, avant d'aller à Macédoine. Ça, c'était son plan initial. Mais pour des raisons qu'il explique par la suite, il dit non, j'irai d'abord à Macédoine, quand j'aurai traversé la Macédoine. J'irai chez vous quand j'aurai déjà traversé. Il change les plans, c'est pour ça qu'il explique le changement de son plan. Mais il va rester, dit-il. Il dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être je vais séjourner auprès de vous, ou même je vais y passer l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Il dit, je ne peux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il prolonge son séjour à Éphèse à cause des problèmes qu'il y avait. On en a parlé, je ne sais plus, à quel moment il y avait le tumulte qui était provoqué par l'orfèvre Démétrius, là, qui disait qu'on nous arrache nos clients, qu'on nous arrache. Il a soulevé vraiment des foules dans la ville et ça nécessitait que Paul reste plus longtemps que prévu à Éphèse. Et donc, au lieu de quitter Éphèse pour venir directement à Corinthe, il dit « j'irai d'abord à Macédoine et c'est après que je reviendrai ». Il explique son plan. Donc, il ira à Corinthe et il y passera l'hiver si le Seigneur le permet. Donc, il reste plus longtemps à Éphèse, jusqu'à la Pentecôte, dit-il, avant d'aller en Macédoine. Pourquoi est-ce qu'il reste plus longtemps? Parce qu'il dit que le Seigneur, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Les adversaires, c'est toute cette clique que Démétrius a soulevée contre Paul. Il dit, mais le Seigneur me donne l'occasion de rester plus longtemps ici, de saisir cette occasion pour faire avancer l'évangile et même pour tenir tête à ceux qui sont en train de résister à l'évangile. Je vais rester plus longtemps à Éphèse. C'était contrairement à mes plans, mais compte tenu de ce qui s'est passé, je vais rester plus longtemps à Éphèse. Et au verset 7, il dit, je ne veux pas vous voir en passant. Vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement important. Je ne vais pas passer vite chez vous. Je vais prendre le temps de rester avec vous. Parce que la situation à Corinthe n'était pas facile non plus. Je ne vais pas venir juste comme si c'était une église qui est calme. Mais je viendrai prendre le temps parce qu'à Corinthe aussi, il y a des choses qu'il faut régler. On ne va pas juste effleurer des situations, on va s'asseoir, on va parler. Donc, il a trouvé nécessaire de renvoyer son séjour à plus tard. À plus tard. Le verset 10 à 12. Si Timothée arrive pendant ce temps, avant que je n'arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire. Maintenant, il partira quand il en aura l'occasion. Comme je disais, dans ces versets, il donne des nouvelles. des ouvriers qui étaient à ses côtés, des ouvriers avec qui il travaille, de ses collaborateurs un peu partout. Il y en a qui sont en mission, il y en a qui sont avec lui. Il donne des nouvelles à l'église de Corinthe. Donc, il avait envoyé Timothée et Eraste. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, on en parle. D'ailleurs, si vous lisez aussi le chapitre 19, vous voyez effectivement tout ce qui s'est passé à Éphèse, les émeutes, que, à partir du verset 23. Et ici, dans le verset 22, il dit ceci. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Donc, il donne des nouvelles de Timothée et d'Eraste qu'il a envoyé en Macédoine pour préparer son voyage. Il donne des nouvelles. Après la Macédoine, il devait venir le retrouver à Corinthe. Donc, maintenant, Paul, s'il en parle, c'est parce qu'il a des inquiétudes. Il a des inquiétudes quand il dit au verset 11, dit, faites en sorte, au verset 10, dit, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Il connaît l'esprit qui règne à Corinthe. Il connaît l'esprit qui règne à Corinthe. Il sait que Timothée, c'est un jeune ouvrier. C'est un jeune ouvrier. Il est même timide. Parce que Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Non, 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 non. Il connaît son âge, il est jeune, il est un peu timide. Il est nouveau dans l'œuvre. Il dit, ça y est, s'il va là-bas, ils vont le descendre. Si moi, ils me traitent comme ils me traitent, mais Timothée, comment est-ce qu'ils vont le traiter? Ils vont le traiter beaucoup plus difficilement. Alors, compte tenu des tensions qui régnaient dans l'église de Corinthe à ce moment-là, compte tenu du fait qu'une partie des membres de l'église n'avait pas de respect pour Paul, on le sait, et qui n'avait pas de respect pour Paul, c'est des personnes influentes de l'église de Corinthe dans l'assemblée. Il a peur qu'on méprise Timothée. Il dit non, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi. Ce n'est pas sa jeunesse qui doit empêcher que vous lui donniez les égards auxquels il a droit ou les respects auxquels il a droit. Que personne, au verset 11, donc ne le méprise. Au contraire, accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Donc, que personne ne le méprise à cause de son âge, s'il vient, mais au contraire, accompagnez-le. Accompagnez-le, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez en sorte qu'il ait un sentiment d'une mission bien accomplie. Il sentit, j'ai travaillé avec une équipe qui m'a appuyé et puis il m'accompagne même pour partir. La terminologie accompagnée ici, même en Afrique, c'était comme ça. Quand quelqu'un, tu es un visiteur, que tu l'accompagnes, nous, tu n'amènes pas la personne à la porte de la maison, non. Tu lui fais faire une distance. C'était comme ça aussi à cette époque. Donc, tu fais faire une distance à la personne. C'est une forme de respect vis-à-vis de la personne. Tu le fais avancer sur son trajet. Alors, accompagne-le en paix. Non seulement lui faire la distance, mais qu'il sente qu'il a été bien accueilli, qu'il sente qu'il a été utile, qu'il sente qu'on a apprécié son séjour parmi eux. Donc, accompagne-le, qu'il ne soit pas terrorisé par les caïdes de Corinthe. Au verset 12, il dit, « Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. » Donc, Apollos, en temps normal, devait aussi voyager avec Timothée et Eraste. Il devait voyager avec Timothée et Eraste. Il l'avait demandé qu'il parte avec les frères. Les frères dont il parle, c'est cela. Donc, mais Paul ne l'a pas empêché d'y aller. Paul n'a pas causé le moindre problème pour que Apollos n'y aille pas, mais on pense que Apollos, se souvenant de ce que nous avons parlé en tout début de l'épître, qu'il y a des gens qui disaient « nous, nous sommes d'Apollos, nous, nous sommes de ci », il n'était pas du tout content, il n'était pas du tout d'accord avec cette façon de diviser ou de le réduire à un rival ou de faire de lui un rival de Paul. Il n'était pas du tout d'accord. Alors, il ne voulait pas rentrer dans ce climat à Corinthe tout de suite. Il a préféré rester lui-même à Éphèse et continue à travailler avec Paul. Donc, ce n'est pas Paul qui l'a empêché de partir avec les deux autres frères. Et Apollos, lui, était tout simplement dégoûté du rôle de rival qu'on voulait lui faire jouer à Corinthe. Donc, nous l'avions vu dans 1 Corinthiens 1, chapitre 10 à 13. Nous, nous sommes d'Apollos. Il n'a pas aimé ça. C'est pour ça que ça ne lui donnait pas le goût de rentrer tout de suite à Corinthe. Verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ben, c'est des exhortations, c'est des recommandations qu'il fait aux gens de Corinthe. Il dit veillez, il dit soyez vigilants. C'est, l'ennemi n'a pas lâché, n'a pas fini d'agir, l'ennemi attaque encore, il va vous faire des surprises. Donc veillez, veillez, parce que vous ne savez pas d'où il viendra, comment il viendra. Soyez vigilants. Ayez une foi ferme, soyez ferme dans la foi. Donc 1. Soyez attachés à la saine doctrine. Il y tient lui-même. Ce que je vous ai enseigné, soyez attachés à cette saine doctrine. Et puis, non seulement soyez attachés à cette doctrine, mais être ferme, c'est aussi défendre cette doctrine. Il faut la défendre. Pas juste dire, moi je crois, bon, lui, non, non. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut pas dire ce qu'il veut. Il faut que tu défendes la doctrine dans laquelle tu crois pour pouvoir tenir tête à l'ennemi. On ne peut pas laisser l'ennemi pour continuer à propager des fausses doctrines là-dedans. Il faut tenir tête à l'ennemi et défendre la doctrine à laquelle vous croyez. Et un chrétien, je disais ça, un chrétien qui tient ferme dans sa foi, c'est vraiment comme un soldat qui va au combat et qui ne recule pas parce que la pression de l'ennemi est forte. Et c'est ça. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est quasiment ça. La pression est forte sur les chrétiens, etc., que beaucoup décident, ah non, je suis ça, la vie chrétienne, je lâche. Non, au contraire, il faut être ferme dans sa foi. Dit, j'y crois, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur a inscrit mon nom dans le livre de vie, je sais qu'il m'attend. Défendre ce en quoi nous croyons, même s'il y a de la pression, même s'il y a n'importe quoi qu'on puisse défendre. Soyez des hommes. Donc, fortifiez-vous, soyez courageux, qu'il n'y ait pas de mollesse face à tout ce qu'il peut y avoir comme menace ou attaque de l'ennemi. Et ici, peut-être qu'il fait aussi allusion un peu à tous ces... à cette époque où on invitait des chrétiens à aller manger des viandes sacrifiées aux idoles. Soyez fermes, soyez des hommes, fortifiez-vous, encouragez-vous, soyez fermes dans votre foi. Et puis, il continue au verset 14, dit « Que tout ce que vous faites se fasse avec amour ». On vient d'en parler dans le chapitre 13. C'est important qu'il revienne là-dessus. Il dit, mais l'amour, sans l'amour, vous ne pouvez rien faire de bon. Donc, que vous puissiez tout faire, tout ce que vous faites se fasse avec amour, soyez remplis d'amour. Il passe donc à un autre sujet. Il dit, encore une recommandation, en plus de vous recommander d'être fort, de demeurer ferme dans votre foi, j'ai une autre recommandation à vous faire ici. Et il veut recommander la famille de Stéphanas. Stéphanas, un petit mot là-dessus, ce n'est pas n'importe qui. Il dit ici, vous savez que Stéphanas est les prémices de l'Achaïe. Il est les prémices de l'Achaïe. C'est une province. Achaïe, c'est une province grecque, justement, dans l'Empire romain, dont Corinthe était la capitale. Il est parmi les premiers convertis, les prémices, parce qu'il est parmi les premiers convertis de Corinthe. Il est même, Paul l'avait dit, au chapitre 1er, le verset 16, il disait que moi, je n'en ai pas baptisé beaucoup. Vous dites que c'est d'Apollos, moi, je n'ai même pas baptisé beaucoup. J'ai seulement baptisé Stéphanas, Corinthiens 1, verset 16. J'ai seulement baptisé Stéphanas et sa famille. Donc, il est non seulement les premiers convertis, il a été baptisé par Paul lui-même, c'est quelqu'un qui lui est cher. Non seulement ça, mais il est aussi quelqu'un qui ne s'est pas contenté juste d'être baptisé. Il dit, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices. Elle s'est dévouée au service des saints. C'est quelqu'un qui est impliqué au service des saints. Il est impliqué dans son église, il est impliqué auprès des gens qui sont affligés, il est impliqué auprès des gens qui sont malades, il est impliqué dans tous les services qu'il doit faire auprès des gens dans l'église. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste un converti que je cite, mais c'est quelqu'un qui est dévoué. Il est dévoué, il a une vraie foi qui trouve donc son sens dans le service. C'est pour ça que moi je dis toujours que nous croyons en Dieu, nous croyons au Seigneur, nous croyons que le Seigneur nous a sauvés. Mais ce n'est pas tout ça. La vie chrétienne ne s'arrête pas là. C'est le début de quelque chose. C'est le début d'une vie de service. Nous sommes sauvés, nous sommes équipés, nous venons de parler des dons spirituels. Nous sommes équipés pour le service. Ce n'est pas pour dire, moi j'ai tel don, Dieu m'a béni. Non, à quoi ça sert dans l'Église? Les dons que Dieu nous donne, c'est pour les mettre au service de l'Église, au service des bien-aimés. Donc, il dit, ce n'est pas seulement un converti, c'est quelqu'un d'important. Donc, au verset 16, il ajoute, donc, ayez vous aussi de la déférence, ayez de la considération, soyez soumis quasiment, ayez de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Tous ceux qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur ont droit à notre déférence. Ils ont droit à notre considération. Un ouvrier dans l'église a droit à notre considération. Un ouvrier où qu'il travaille, nettoyer les toilettes, à la musique, à l'accueil, chez les enfants en arrière, chaque ouvrier a droit à cette considération, etc. Et ceux qui sont en position d'autorité, on doit pouvoir donc s'y soumettre. Donc, il dit, ayez donc de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. versets 17 et 18, il dit « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » C'est des noms, on ne sait pas qui ils sont réellement. Ça se peut que ce soit des personnes qui sont de la famille de Stéphanas. C'est peut-être des membres de la famille de Stéphanas. Mais les commentateurs semblent pencher plutôt vers autre chose. Donc, ils pensent que ça fait partie des gens qui faisaient partie des envoyés de Chloé. Nous avons parlé tout au début de l'étude de 1 Corinthiens que Chloé avait envoyé des personnes auprès de Paul pour aller amener les questions qui se posaient à Paul et auxquelles il a répondu pendant tous les chapitres. Il répond aux questions qui ont été posées. C'est des gens de Chloé, des personnes influentes dans l'Église qui avaient été envoyées auprès de Paul. On croit que ces trois personnes soient ces personnes qui avaient apporté les nouvelles à Paul. Donc, il dit que ces personnes, ils ont suppléé à votre absence. Façon de dire, vous savez, vous me manquez beaucoup. Le fait de les voir, j'ai cru voir toute l'Église de Corinthe. Le fait de les voir, vous me manquiez, ils ont suppléé à votre absence en m'apportant des nouvelles de mes bien-aimés. C'est une façon d'apprécier, donc, parce qu'ils ressentaient le vide, et je suis coupé, le travail m'empêche d'aller là-bas, je ne vais pas y aller vite, parce que j'ai encore un travail important à faire ici, à Éphèse. Ils ressentaient le vide, ils ressentaient la privation qu'il avait des Corinthiens, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer directement avec eux. Alors, ce que ces gens ont fait, ils ont tranquillisé l'esprit de Paul. Ils ont eu l'heure juste, parce que les gens venaient de l'Église, ils lui ont vraiment donné l'heure juste de ce qui se passait au niveau de Paul, et lui ont apporté des clarifications par rapport à ce qui se passait à Corinthe. Alors d'où l'importance de les apprécier, c'est des personnes importantes, c'est des personnes précieuses, d'où l'importance de les reconnaître. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. C'est ceux qui vont tranquilliser le vôtre quand ils vous ramèneront aussi de mes nouvelles, ils vont tranquilliser le vôtre. Alors sachez apprécier de tels hommes. Verset 19 à 24 dit « Les églises d'Asie vous saluent ». Alors ça termine en fait par des salutations. C'est des salutations finales pour un peu réchauffer l'amour entre tous les membres. C'est l'habitude de Paul. Il dit « Vous savez, je ne m'adresse pas juste à vous, mais je m'adresse à vous, mais je vous mets en contact par mes salutations. Je vous mets en contact avec des frères d'ailleurs, d'autres églises avec lesquelles moi je suis en contact. Ça permet de réchauffer l'amour entre les frères et les membres avec lesquels Paul était en contact. Il dit au verset 19, les églises d'Asie. L'Asie, ce n'est pas l'Asie comme continent. L'Asie, c'était considéré comme une province à l'époque aussi, une province de l'Empire, du Grand Empire romain, qui avait Éphèse pour capitale. L'autre partie, c'était l'Achaïe, nous l'avons dit. C'était la province grecque qui avait Corinthe comme capitale. Donc, ceux de l'Asie, ceux de l'Éphèse où je suis, vous saluent aussi. Ceux d'Éphèse vous saluent. Ceux de l'église maison de chez Aquilas et Priscille, au verset 19, il les cite. Aquilas et Priscille, vous le savez, c'était des compagnons de métier. C'est des gens chez qui Paul a vécu. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, les trois premiers versets, ça nous parle que c'était de bons amis de Paul. Ils exerçaient le même métier de fabricant de tentes. Donc, ils se connaissaient. Et puis, c'est chez eux qu'il a vécu pendant un an et demi. Donc, c'est quelqu'un qui leur est proche. Un an et demi avec eux dans leur maison lors de son premier voyage missionnaire à Corinthe. Donc, ceux de l'église maison. Et c'est ça à l'époque à cause du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens pour s'acheter des bâtiments. Cette époque. Deuxièmement, aussi à cause du fait que c'était une époque où on persécutait beaucoup les chrétiens. On persécutait, alors les gens s'enfermaient plutôt dans leurs maisons, etc. C'est dans les maisons qu'il y avait des églises à cause de la persécution, le christianisme étant considéré comme une religion illégale dans l'Empire romain. Donc ceux de l'église maison de Aquilas et Priscille vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Tous les frères de l'Église, etc. Et il termine par ses propres salutations. Il dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». C'est une pratique qui avait cours à cette époque. C'est une pratique, mais c'est comme toujours, à un moment donné, il y a des abus qui arrivent. Hein. Mais c'était homme et homme. Hein. Des baisers, c'était homme et homme, femme et femme. Mais il y a eu des abus, je ne sais pas de quel genre, à un moment donné, puis ça a été abandonné. On a gardé cette pratique juste pour certaines circonstances bien particulières. Donc, tous les frères d'Éphèse vous saluent. Saluez-vous par un saint baiser. C'est un signe de communion, c'est un signe de rapprochement. C'était une salutation normale à l'époque dans l'Église primitive. Et il termine par ses propres salutations au verset 21. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. S'il le fait, c'est parce qu'on comprend que tout ce qu'il écrivait, il le dictait dans le fond. Il le dictait à un secrétaire ou une secrétaire qui prenait toutes les notes. Mais pour que les gens soient sûrs, en fin de compte, que la lettre qu'on leur fait parvenir vient réellement de Paul, il l'a signée de sa propre main. Donc c'est ça, je vous salue moi-même, moi Paul, de ma propre main, pour dire que je signe ce document, je l'authentifie comme venant de moi. Quand vous le recevrez, vous n'avez aucun doute. Et donc les salutations de Paul de sa propre main, car il dictait l'essentiel de ses lettres à un secrétaire. Et il déterminait toujours par une signature pour authentifier le document. Voyez-vous, dans toutes ces salutations, c'est comme une marque de bénédiction qu'il fait. Il y a une notion de bénédiction. Je vous bénis en vous saluant, je vous aime, je vous exprime mon amour. C'est comme une marque de bénédiction. Mais en même temps qu'il fait ça, il se rappelle qu'à Corinthe, tout le monde qui est dans l'église de Corinthe ne mérite pas ce genre de bénédiction. Parce qu'on sait qu'à Corinthe, il y a des gens qui sont opposés à tout le travail que Paul fait. Ils ne sont pas dignes d'avoir de tels sentiments. Alors, lui-même est indigné de ça. C'est pour ça qu'au verset 22, après avoir quasiment terminé sa lettre, paf, c'est comme si quelque chose vient de s'éveiller en esprit. Il dit, mais si quelqu'un, voyez-vous comment ça arrive, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, Christ revient bientôt. Le Seigneur vient bientôt, Seigneur vient, Seigneur vient. C'est un terme en araméen, une langue araméenne à l'époque, Seigneur vient. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne dit pas si en l'air, il ne dit pas si hypothétique, c'est parce qu'il sait que dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Nous l'avons vu à l'époque, quand nous avons étudié le chapitre 12, le verset 3, des gens qui maudissaient, qui disaient que Jésus est anathème. Il y avait des gens dans cette église. Il dit, mais ces gens ne méritent pas cette bénédiction que je viens de donner. Il dit, mais que ceux-là soient anathèmes, ceux qui manquent d'amour dans l'Église, ceux qui propagent de faux enseignements, comme il y en avait dans l'Église, tous ceux qui maudissaient Jésus, qui disaient Jésus soit anathème, chapitre 12, verset 3, ben, qu'ils soient maudits, qu'ils soient eux anathèmes, et que le Seigneur les enlève du milieu des Corinthiens, quasiment. Donc c'est un terme un peu dur, un avertissement sévère à ceux-là qui ne méritent pas d'avoir ce genre de salutation. Il termine comme ça, il dit, que la grâce du Seigneur soit avec vous, mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Maranatha, pour exprimer le désir ardent, et dit que Seigneur, viens nous prendre, nous avons hâte d'aller à sa rencontre. Viens Seigneur, et que la grâce soit avec vous, pour que votre vœu de voir le Seigneur revenir soit exaucé, pour que ce vœu soit efficace. Mais il termine en beauté quand même, au verset 24, mon amour, c'est pas parce que j'ai été dur à la fin, mon amour est avec vous tous. En Jésus. Amen. Et après les reproches et les avertissements sévères, il termine avec des mots d'amour pour les Corinthiens. Il assure donc son amour à tous ceux qui sont de l'Église et qui apprécient même Paul, etc. Pas juste ceux qui disaient que nous sommes de Paul, mais à tous. Même ceux qui se disaient d'être d'Apollos. Amen. Tant que vous voulez marcher dans la droite ligne de la doctrine que Paul a enseignée, ben que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.